Ok, monsieur, Shana Tova, bonne année. Gmar Hatima Tova, que l'on soit signé dans le livre de la vie, et spirituelle et physique. Nous sommes entrés dans l'année de Shemitah. À septième année, il y a un cycle dans la Torah. 6 ans, tu travailleras la terre, tu planteras, etc. Septième année, Shabbat, l'Hachem. C'est un Shabbat, c'est-à-dire une grève pour Dieu. Tu n'auras pas le droit de planter, tu n'auras pas le droit de d'élaguer la terre. Septième année, c'est une année sainte. On appelle ça la Shemitah. Il y a un cycle de cette année qui a commencé 14 ans après que Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël, Josué, donc il y a 3200 ans dont je vous parle. Une fois qu'ils ont conquis la terre et l'ont distribuée entre toutes les 12 tribus, là commençait le compte des Shemitot des 7 années. Et ça marque ça les 7 années, 7 fois 7, 49. La 50e, c'était le Yovel, le jubilé. Là, c'était aussi comme l'année de Shemitah, où on n'a pas le droit de travailler la terre, mais en plus, tous les biens fonciers revenaient à leurs propriétaires. Et comme ça a duré durant quelques siècles. Lorsque Bnei Israël ont été envoyés en exil, 500 ans avant l'ère chrétienne avec Nabuchodonosor, pas tous les Juifs sont rentrés en terre d'Israël. Une partie sont restés à l'étranger. Dès ce moment-là, le Yovel a été arrêté. Le Yovel ne se pratique que si tous les Juifs sont en terre d'Israël. Néanmoins, la Shemitah a continué. Elle continue jusqu'à aujourd'hui. Si on veut savoir quelle année est la Shemitah, c'est très simple. On prend depuis la création. Pas parce que le compte part depuis la création. Le compte part depuis 14 ans après la conquête de la terre d'Israël par Josué, comme j'ai dit auparavant. Mais ça tombe à la même date que si on compte depuis la création, comme par hasard. Donc on est maintenant en 5768, faut prendre une machine à calculer, tu prends 5768, tu divises par 7, si ça tombe sur 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste, d'accord, donc on est dans une Shemitah. S'il reste quelque chose, alors tu es la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième année de la Shemitah. Une Shemitah très importante. Dans la Torah, il est marqué que, parce que la terre n'a pas été, le peuple d'Israël n'a pas fait bien la Shemitah à l'époque en terre d'Israël, alors le peuple d'Israël a été envoyé en exil. La terre exigera le nombre d'années, c'est marqué là, il y a eu un exil de 70 ans, par rapport à 70 années de Shemitah, que les Israéliens n'ont pas fait comme il fallait, la terre va exiger le nombre d'années où elle devra rester complètement vide. Et effectivement, on a eu 70 ans d'exil vide. C'est pour ça qu'il est très important de bien faire la Shemitah, bien faire les lois de la Shemitah. Des grands rabbins ont écrit qu'il est important aussi que à nos frères à l'étranger qui ne vont pas pratiquer les lois de Shemitah parce que ça ne concerne que la terre d'Israël. Néanmoins, il y a une importance au moins d'apprendre à la halakhot parce que comme ça, ils ont à voir. Le fait d'apprendre à la halakhot, c'est comme si quelque part tu réalises les lois de la Shemitah et ça raccourcit la galoute qui est décidément beaucoup trop longue. On veut que la galoute finisse rapidement. D'autant plus que ça concernera tous les juifs à l'étranger pour les fruits venant à la terre d'Israël. Israël exporte, on verra, hélas, en Shemitah, on n'a pas le droit d'exporter à l'étranger, mais on exporte aussi à l'étranger des fruits de la septième année, et toutes les lois dont on va parler maintenant concerneront les juifs qui achèteront, qui obtiendront des fruits de la septième année de la terre d'Israël. Non seulement au niveau de la terre elle-même, donc il y a des lois qui vont concerner la terre, mais tout change à l'année de Shemitah. Au niveau de la configuration mystique des mondes, c'est comme Shabbat, comme Shabbat. De même qu'il y a un Shabbat de la semaine, il y a un Shabbat des années. Et on voit très bien que c'est bien, durant toute la vie, durant toute l'année, de faire Tikkun Hatzot. C'est bien de pleurer la destruction du temple entre minuit, minuit juif, donc aujourd'hui ça tombe autour des 11h30, enfin 12 heures après le moment où le soleil se trouve au sommet de sa course. C'est le moment où on commence à faire Tikkun Hatzot, on peut le faire jusqu'au lever de l'aube, 1h12 avant le lever du soleil. C'est la période où on peut faire Tikkun Hatzot, c'est bien de s'asseoir par terre et pleurer. Il y a certains textes à lire dans le Sidour. Et il est séparé en deux parties, Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Ce sont des notions mystiques. Le Tikkun, la réparation de Rachel, la réparation de Léa. Il s'agit de parties de la Shrina qu'on répare en lisant ces textes-là. L'année de Shemitah étant extrêmement sainte, il n'y a pas besoin de faire la réparation de Rachel. Il n'y a pas Tikkun Rachel, on fait que Tikkun Léa. Donc on voit que les lois vont changer. Alors Ben Sion dit que de même que c'est marqué dans Ben Israël ramène cela, que les kabbalistes ont dit que l'étude de la Torah, ainsi que les mitzvot, le jour de Shabbat, valent 1000 fois plus. pas 7 fois plus, pas 70 fois plus, pas 77 fois plus, 1000 fois plus, l'étude de Torah. Évidemment, la Averot, Bitul Torah, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah Shabbat, ça vaut 1000 fois plus, c'est beaucoup, beaucoup plus grave, 1000 fois plus grave. Rabbi Zion, il dit que ceci valable aussi pour l'année de Shemitah. L'année de Shemitah, il faut que notre Tshuva soit beaucoup plus grande, notre Torah soit plus grande, nos mitzvot soient plus grandes, parce que ça a 1000 fois plus d'impact en année Shemitah que les autres années. Effectivement, il y a une présence divine terrible, que même les fruits, vous voyez, les fruits, un morceau de concombre, il devient saint. On ne peut pas le manger comme on veut, on ne peut pas en faire n'importe quoi, on ne peut pas le sortir à l'extérieur, on ne peut pas le donner à manger à un non-juif, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Un concombre. Dieu vient et rentre dans la terre. Il y a une présence de Dieu extraordinaire durant cette septième année. Au niveau des notions non mystiques plus accessibles à nous, c'est une mitzvah de très grande émouna, de très grande confiance et croyance en Dieu. Parce que, la Gemara dit, « Gibor et Koach, Oset Varo », les Gibor et les vaillants puissants qui font la parole de Dieu, qui respectent la parole de Dieu, c'est quoi? Ce sont les fermiers qui font la Shemitah. Quelqu'un, il sait, et à l'époque on parlait que 98% de la terre d'Israël, c'était des fermiers, qui voit maintenant son champ, et il doit rester comme ça maintenant une année sans travailler, sachant qu'il doit nourrir sa famille, payer des impôts, et il peut aller planter comme ça, même en douce, comme ça, il va peut-être aller la nuit, personne ne verra, hop, ça a poussé tout seul, on peut s'arranger, d'accord? Rien. Quelqu'un qui fait ça, il l'appelle un gibor koar, un vaillant puissant. Parce qu'il faut une émouna, une confiance en Dieu totale, c'est quoi? L'Occident, l'optique occidentale, elle dit quoi? Time is money. L'argent, le temps, c'est de l'argent. Il faut être productif. Quelqu'un a dit, par exemple, après son bac, je ferai une année à l'Eshiva. Et quand tu vas travailler, et tes études, il faut être productif. Une année, c'est pas productif. Une année à l'Eshiva, c'est productif au niveau de l'Eshama. Mais l'Eshama, on voit pas, nous on veut sur le terrain, du flous, d'accord, du blé, ça, quand ça va t'aider maintenant de savoir un peu plus de Talmud, ah, que je saurais mieux me comprendre avec moi-même, avec ma femme, avec mes enfants, avec Dieu, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux, pas important, on veut être productif. Et on croit qu'effectivement, quand on produit, ça fait de l'argent, et comme ça, c'est nous qui maîtrisons tout. Viens, Torah te dit, mon cher ami, tu ne maîtrises rien du tout. 6 ans tu travailles, 7e, tu fais rien. Je demande à Torah, et quand vous demanderez qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, Dieu dit, j'ordonnerai ma bénédiction, de façon à ce que la terre va donner la 6e année, suffisamment pour la 6e, la 7e et la 8e, le temps que tu plantes et que tu récoltes la récolte de la 8e année. Donc c'était une leçon de émouna, de confiance en Dieu extraordinaire, et de bitachon. Il fallait que le type, il a une famille à l'époque qui se marie avec beaucoup de femmes, donc il avait 10 enfants par femme, il avait 8 femmes, 80 enfants. Il faut les nourrir, d'accord? Quelqu'un vient dire, comment tu vas? Dieu pourvoira. Au niveau de la conception occidentale, c'est complètement fou, d'accord? Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Eh bien oui, c'est comme ça que nous faisons. Et il y a une mitzvah très grande de la Torah de faire cela, de plus. Au niveau social, on verra que chacun doit laisser son champ. Bon, le champ, on ne peut pas planter, mais les arbres vont donner des fruits. Il a un pommier, il a des poiriers, il a des pruniers, d'accord? Hefker. Il n'a pas le droit, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut venir, le pauvre comme le riche. Rothschild, maintenant, il a des terrains, des millions de terrains. Hop, il laisse tout le monde vient, comme ça, on est égal. Il n'y a plus de riches et plus de pauvres. Tout le monde, cette année-là, est égal. Troisième chose aussi qu'on peut apprendre au niveau de ce que nous pouvons comprendre. Quelqu'un croit que lorsqu'il va plus produire, il va plus agir, il aura une meilleure production. Au niveau logique, une terre. Tu vas laisser la terre, tous les 7 ans, tu fais un peu de jachère. C'est normal que l'année d'après, la première année, elle va produire beaucoup plus, parce qu'elle s'est reposée une année entière. Deuxième année, encore moins. Sixième année, le moins. La Torah dit le contraire. 5 premières années, normal. 6e année, 3 fois plus. Pour te montrer que c'est Dieu qui gère. C'est pas toi, quand tu fais, ça produit. Tu fais parce qu'il faut ishtanout, faut faire le jeu, de jouer le jeu, qu'il faut aller travailler pour que Dieu amène de l'argent. Oui, mais c'est un jeu. Preuve en est que tu regardes, la 6e année, t'as 3 fois plus. Ok, aujourd'hui, la Shemitah, d'après la majorité des décisionnaires de Rishonim, déjà il y a des siècles et des siècles, n'est qu'une mitzvah des Rabbanan. Bien qu'à l'origine c'est une mitzvah de la Torah, elle n'est que des Rabbanan, c'est un décret des rabbins. Vous verrez que ultérieurement, je vais dire, dans Shemitah, des fois je dis Deoraita ou des Rabbanan, des lois de la Torah, de Shemitah, des lois de Rabbanan, de la Shemitah, mais tout ça c'est dans le cadre que des Rabbanan, c'est-à-dire, théoriquement, si la loi était de la Torah aujourd'hui, tout le peuple d'Israël était en terre d'Israël, et on faisait le Yovel, alors on aurait la Shemitah de Horaïta. Mais maintenant que c'est tout des rabbanan, ça descend des rabbanan. Et le des rabbanan que je dis, c'est en fait un trait des rabbanan. C'est deux lois des rabbanan. En deux mots, ne vous cassez pas la tête. Simplement, quand je dirais des fois, c'est de la Torah de Oraita ou des rabbanan, ne croyez pas que tout d'un coup maintenant on a une shmita de Oraita. La shmita, elle est des rabbanan. Mais c'est dans des rabbanan, tu as un qui est plus grave, parce qu'à l'origine, théoriquement, elle était de Oraita, et un qui est moins grave, parce que même à l'origine, il n'était que des rabbanan. On appelle cela très des rabbanan. Très, c'est deux en araméen, c'est deux des rabbanan. Ok? Au niveau des travaux de la terre, on aura 6 interdits de Oraita et d'autres des Rabbanan. Des travaux de la terre, c'est-à-dire travailler la terre au niveau agricole. Ça ne concerne que les gens qui ont... On verra, on va en parler aussi des petits pots de fleurs qu'on a à la maison, ça aussi, on doit en parler aussi. Mais en gros, on parle surtout pour les gens qui ont un jardin ou carrément des champs d'exploitation. Il y aura 6 interdits de la Torah. Labourer, planter, c'est deux, planter au niveau des céréales, des légumes, et planter au niveau des arbres. En hébreu, c'est deux termes différents, zria et netia. Élaguer, zmira, élaguer, ça aide à pousser l'arbre. Et encore deux interdits qui sont égaux, là aussi on parle de céréales et de fruits de l'arbre. Au niveau, on parle de récolter, donc récolter tout ce qui est au niveau... les céréales, tout ce qui est de la terre, les radis, et récolter au niveau des arbres, c'est la cueillette des fruits. Ces 6 travaux-là sont interdits de la Torah. Il y aura des interdits des Rabbanan, qui concernent aussi le travail de la terre. C'est tout ce qui va à côté. C'est arroser, mettre des engrais, faire, à l'époque, ils faisaient des feux autour avec de la fumée pour tuer tous les insectes. Aujourd'hui, ce sera des pesticides, insecticides. Toutes les choses qui accompagnent à côté le fait de, par exemple, avant de labourer, on enlève toutes les pierres, toutes ces choses-là qui préparent à ces 6 travaux-là sont interdits des Rabbanan. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Ça change. Les travaux de Oraita sont interdits dans tous les cas. Il y a seulement les deux derniers qui sont récoltés les céréales ou cueillettes des fruits, qui sont permis si on le fait de façon différente. C'est quoi différent? En petite quantité, pas de façon industrielle, en très petite quantité. Combien de petite quantité? Il y en a qui disent ce qu'il te faut pour quelques jours à la maison, il y en a qui disent que 3 repas.
Parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas des repas?
Non, parce qu'on est obligé, c'est marqué que la terre sera pour manger. Il faut bien qu'on mange, comment on va, si tu ne vas pas récolter, tu ne peux pas manger. Mais pas de façon industrielle, ça veut dire comment? On doit faire une quantité qui est petite. Ça, c'est l'avis du Rambam, tout le monde est d'accord là-dessus. Le Rash aussi, il rajoute, et c'est bien si possible de faire comme le Rash, c'est pas obligatoire, de cueillir différemment. La cueillette ne sera pas avec les mêmes instruments, un peu différents. La cueillette et la récolte. Ça c'est, donc pour les travaux de Oraita, ils sont interdits dans tous les cas, si ce n'est deux derniers, la cueillette et la récolte, qu'on fera différemment. Les 4 premiers, donc, labourer, planter les deux façons, et élaguer, seront interdits dans tous les cas. Les autres travaux, tels que arroser, engraisser, pesticides, tous ces machins-là, seront permis, vu que c'est de la banane, lorsque c'est les hukoumé. C'est quoi le hukoumé? Pour conserver l'état présent. On ne t'ordonne pas maintenant, si quelqu'un ne va pas arroser maintenant son champ, il a des arbres. Ça fait, là, il a acheté maintenant des arbres, tout un champ d'arbres à un non-juif, et il a des arbres qui sont vieux d'un siècle, qui font des fruits extraordinaires. Lui, maintenant, 27e année, défense d'arroser. Il n'arrose pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est mort. Chazal n'a pas ordonné que toute ta récolte meure. Qu'il y a même des champs, des fois, que si tu n'arroses pas le champ lui-même, la terre devient salée et après, terminé. On ne peut plus travailler la terre. Plus jamais. Donc, tout ce qui est pour conserver l'état présent est permis. Donc, on pourra arroser. Si on ne met pas des engrais et les fruits ne vont pas pousser normalement, on aura une perte très grande. On peut mettre des engrais. On verra tous ces cas, chacun précisément. En tout cas, quand ce sont des travaux d'Erabanan, lorsque c'est pour conserver l'état présent, pour pas que ça se gâte, c'est permis. Lorsque c'est les chabouches, c'est-à-dire pour que ça soit mieux, tu mets des engrais, tu arroses plus pour que ça donne une bonne récolte, là c'est déjà interdit. Donc, conserver le minimum... Oui. Rajouter à ce minimum, non, pour des rabbanan. Les interdits d'Oraita, dans tous les cas, c'est interdit, comme j'ai expliqué. Ça, c'est au niveau de travailler la terre. À part cela, il y aura encore 4 interdits d'Oraita et 2 des rabbanan. Les lois sont extrêmement touffues et nombreuses. Et si je vous donne tout maintenant en vrac, ça fera une grosse salade. Alors je vais commencer à expliquer chacun de ces six, donc les quatre de la Torah plus deux d'Arabanan, je vais commencer à les expliquer de façon plus, un peu plus profonde, mais encore assez superficielle. Et après, dans des cours qu'on fera actuellement, on va reprendre chacun des têtes de chapitre et on va les analyser de façon plus profonde. Les quatre interdits des Horaïta seront obligation de s'exproprier Hefker. Je dois ouvrir mon champ et mettre un panneau. Vous pouvez venir, c'est permis. Le panneau, ce n'est pas obligatoire, d'accord? En tout cas, je dois ouvrir mon champ et tout le monde peut venir dans mon champ récolter ce qu'il veut. Deuxième, ce sera l'obligation de conserver la sainteté des fruits. On ne pourra pas utiliser un fruit de façon qui n'est pas conforme à l'utilisation habituelle. Écraser ce qui ne s'écrase pas, cuire ce qui ne se cuit pas, etc. On verra dans les détails. Troisième matière des rabananes, interdiction de faire du business avec les fruits. Ce sont des fruits sains, pas de business. Comment on fait pour acheter? On en parlera. Quatrième, l'obligation du bi'our. Qu'est-ce que c'est que le bi'our? Bi'our signifie littéralement, comme bi'our hametz avant Pessah, l'obligation de se débarrasser de tous les fruits. Dès que dans les champs, les fruits disparaissent des champs, la saison est passée, ils se fanent, terminé, il n'y a plus de fruits dans les champs. Les fruits que tu as à la maison, en boîte de conserve, en confiture, etc., tu dois faire le bio, tu dois t'en débarrasser aussi. Il y a deux façons. Le Ramban, Narmanide, il a dit, tu fais un Hefker. C'est quoi Hefker? Tu dis des appropriés, tu vas dans la rue, tu prends trois personnes, écoutez, voilà, ça maintenant, c'est plus à moi. Quelqu'un, il veut, il prend. T'attends un petit moment, une heure ou deux heures, tu reviens, il y a encore quelques-uns, tu reprends, et c'est à toi, tu peux le prendre, ça va. Parce que tu t'es débarrassé, tu as repris. Tu peux te débarrasser, maintenant tu as repris du Hefker, c'est une chose qui était désappropriée, ce n'est pas ta propriété. Pour les Sfaradim, la Rabbi Tzion, il possède comme le Rambam, Maïmonide dit non, il faut faire un bio, ça veut dire carrément, comme bio Hametz, brûlé dans les toilettes, enfin, il faut se débarrasser de tous les fruits de Shvit. Quatrième mitzvah de la Torah. On aura deux mitzvot des Rabbanan, Sfirin et interdiction de sortir des fruits de la terre d'Israël à l'étranger. Si les fruits sont sortis, même que ce soit de façon interdite, ils gardent leur sainteté. Donc un Français qui a reçu des fruits de la terre d'Israël de Shvit devra faire toutes les lois qui concernent la sainteté de ces fruits. Sfirin, qu'est-ce que c'est rapidement? Sfirin. C'est marqué que la terre sera désapproprié des propriétaires, donc chacun peut aller. Pour les pauvres, chacun est devenu pauvre, il n'a plus de territoire, de propriété de ses fruits, et chacun peut aller dans les champs ramasser ce qu'il veut. Ça veut dire que les fruits vont pousser tout seuls. Au niveau des choses qui ne poussent pas tout seuls, les fruits ça pousse tout seul, mais les céréales, les légumes, les radis, les féculents, les fèves, les haricots, ça si on ne plante pas, ça ne pousse pas. Alors, interdiction de planter, c'est partie des interdits de la Torah, on n'a pas le droit de planter. Mais il se peut qu'il y a des graines qui sont restées de l'année passée. L'année passée, on a fait les moissons. Quelques gerbes, quelques grains de blé sont restés par-ci, par-là. Il a plu, ça a poussé. De la Torah, tous ces fruits qui ont poussé tout seuls sont permis. On peut aller les prendre, manger, aucun problème. Il y a un problème, il y a quelques millénaires déjà. Les Juifs n'arrivaient pas à faire la Shemitah comme ils disaient. Il faut comprendre qu'à l'époque, 98% de la production nationale était agricole. Et les gens devaient nourrir leur grande famille. Alors, il y avait des personnes qui allaient en douce, la nuit, en cachette. Ils jetaient comme ça quelques graines par-ci, portaient quelques radis par-là, quelques haricots par-ci. Et deux, trois mois plus tard, tout ça poussait. Ils disaient, oh, c'est marrant, comment. Combien de graines j'ai laissées l'année passée dans les moissons, je ne me suis pas rendu compte. Et les radis, j'oubliais ça de l'année passée, comme ça, les radis, ça a repoussé. Et ils allaient, ils mangeaient. Les rabbins n'étaient pas idiots, ils ont vu que beaucoup de gens commençaient à faire comme cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un interdit qui a commencé donc déjà maintenant le premier jour de cette année. Interdiction de tout ce qui provient de la terre directe, pas des arbres. Ça explique qu'en fait, que les arbres, c'est permis, ce qui pousse tout seul. Tout le reste, c'est-à-dire céréales, légumes, féculents, tout ce qui pousse de la terre, qu'on le plante, et ça pousse dans les quelques semaines qui suivent, sont interdits à la consommation depuis le premier jour de cette année jusqu'au dernier jour, depuis le premier Tishrei jusqu'au 29 Elul de l'année de Shemitah. Il y a un avis qui dit que si ça a poussé en majorité en sixième année, mais qu'on le cueille en septième année, ça vient du Rash, et comme ça dit le Chazon Ish aussi, il n'y a pas d'issour sfirim, il n'y a pas d'issour sfirim. Mais nous, Sfaradim, on va comme Maïmonide, qui dit que même maintenant, là, tu as une tomate qui est grosse comme ça. Elle a été plantée il y a 3 mois, en sixième année. Donc il n'y a pas de risque quelque part que tu dises, quelqu'un il a planté cette tomate cette nuit, et hop, par hasard, le matin, tic, elle a vu une grosse tomate qui est sortie comme ça. Néanmoins, vu que c'est maintenant, on a fait le plouc, on fait aucune différence, vu que maintenant c'est un légume de septième année, quand tu le cueilles, il a interdit la consommation. Terminé. Il faut laisser pourrir sur place. Même si quelqu'un l'a cueilli de façon interdite, il doit le laisser pourrir sur place. On appelle ça un issour de Rabbanan, issour sirin. Ok. Alors, j'expliquais maintenant déjà au niveau des lois de la Torah, du travail de la terre, qui avait des lois de la Torah et des lois des Rabbanan. On va passer maintenant aux 4 interdits de la Torah. Hefker. L'obligation de se désapproprier. Alors, il y a des amis qui disent qu'il faut prendre 3 personnes et dire devant ces 3 personnes, je me désapproprie, je fais Hefker maintenant de mon champ. Et qui disent que non, inutile, t'as qu'à ouvrir, laisser la porte ouverte et les gens viendront quand ils veulent. Il y a un problème, c'est quoi? T'as un paysan qui est religieux, qui fait la Shemitah, qui dit, moi je veux bien. Mais si j'ai la porte ouverte maintenant, il n'y a pas que des bons juifs qui vont venir maintenant prendre des fruits, des non-juifs, et il n'y a pas d'obligation de désapproprier pour les non-juifs. Il y a la brebis du voisin, le chien du voisin, des animaux. Il y en a même des bons juifs qui vont venir maintenant cueillir. Quelqu'un veut maintenant cueillir un bon étrog ou des belles tomates, il va aller, il va marcher sur les plates-bandes, il va, non, les tomates, je dis, c'est interdit. Il n'y a que les fruits de l'arbre, d'accord? Il veut maintenant aller ramasser des prunes, d'accord? En passant, il coupe une branche, il s'y connaît pas. Il coupe une branche, il marche sur les tubes. Il casse mon champ. La désappropriation ne concerne que les fruits, pas les branches. Quelqu'un qui, pour prendre un fruit, il a cassé la branche, il a fait du vol. Concerne que les fruits, pas les tuyaux qui sont par terre que tu peux casser, pas la terre que tu... Tout. Je ne me désapproprie que des fruits. Il y a un danger que des gens vont aller et faire des dégâts dans le champ du propriétaire, sauf que le propriétaire, il a une solution. C'est quoi? Fermer son champ, mettre un grand panneau. Le champ est hefker, désapproprié. Celui qui veut prendre des fruits, qui vienne prendre la clé chez moi, et le propriétaire viendra avec lui, et va regarder qu'il fasse tout comme il faut. Là, il n'y a aucun problème. Ok? Qu'est-ce qui se passe si maintenant les fruits n'ont pas été désappropriés? Ce que le cas pour, hélas, 80% de plus des agriculteurs israéliens, ils ne se désapproprient pas de leur champ. En passant, on en parlera peut-être la prochaine fois, je ne vais pas préparer encore, on en parlera la prochaine fois. Il y a certains rabbins qui autorisent de faire ce qu'on appelle Heter Mechira. Ils vendent la terre d'Israël à des goïms. Et, comme cela, un goy n'a pas d'obligation de faire la Shemitah. Donc, ma terre appartient maintenant à un goy. Moi-même, je peux être maintenant employé, je suis l'employé du goy quelque part, je travaille la terre. On a fait une sorte de abracadabra, comme ça, qui, soi-disant, autorise tous les fruits de la terre d'Israël, comme quoi il n'y a plus de Shemitah. On fera un cours spécial là-dessus, qui va expliquer par A plus B que ça ne vaut presque absolument rien. En cas de force majeure, on peut vraiment. Alors on peut compter sur ce truc qui vaut vraiment rien. Quelqu'un, il a vendu son champ, c'est des bêtises, quoi. T'as vendu ton champ à Ahmed maintenant et. Qu'est-ce qui se passe? Et si Ahmed vient et prend ton champ vraiment, qu'est-ce que tu vas dire? On voit que la vente n'a aucune valeur. Donc, hélas, 98% des champs agricoles israéliens ne font pas la Shemitah. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas la Shemitah, ne s'est pas désapproprié de ses fruits, est-ce que moi j'ai le droit de manger un de ses fruits? J'ai une tante qui vient maintenant du kibboutz, elle amène un kilo de citron de son citronnier. Elle est pas religieuse, elle est au kibboutz, tout ça. Elle dit, bon, tiens, je t'ai mis des citrons, Ron. Ok, très gentil, tata, mais t'as fait Shemitah? C'est quoi Shemitah? Shvit, on dit Shvit, on est bon, Shvit, septième. Quoi septième? De quoi tu parles? Ces fruits-là, est-ce qu'on peut les consommer, oui ou non? Marloket. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. La coutume est oui. Chameau venait, on appelle ça chameau venait, va, chameau, ça a été gardé, Nevad, la terre a été travaillée, le produit, d'après certains dictionnaires, il est interdit, mais on compte aujourd'hui, vu que c'est des rabananes, sur ceux qui disent que c'est permis. Seulement dans les cas délicats, par exemple, Etrog, où on fait une mitzvah de la Torah avec, alors on évitera de prendre un Etrog, qui a été, chameau Nevad, qui a été travaillé, la terre a été travaillée, et qui n'a pas été désappropriée. Quelqu'un qui a désapproprié son champ, Donc, tout le monde peut aller et prendre. Combien? Combien? Lui-même peut aussi prendre dans son champ. Il n'est pas pire qu'un autre. Mais il peut prendre qu'une petite quantité. Combien? Il y en a qui ont dit ce qu'il faut pour certains jours. Comme tu vas faire ton chouk, ton marché, tu prends pour la semaine. Et qui disent non, 3 repas. En tout cas, plus que pour la semaine, c'est interdit. Les autres, le Chazonish dit même chose, tout le monde a la même enseigne. Quelqu'un qui est maintenant dans un champ ne peut pas prendre maintenant un container et remplir tout le champ, c'est FKR, je prends maintenant, pour chez moi je vais faire de la confiture de pommes pour les 10 ans à venir. Non. Donc lui aussi, un autre pourra ne prendre que pour 3 repas ou pour quelques jours, une semaine. Alors Ben Sion amène une preuve de Rambam, comme quoi l'interdiction de prendre plus de 3 repas ou une semaine ne concerne que le propriétaire lui-même. Mais les autres peuvent prendre tant qu'ils veulent. Donc, on pourra compter sur l'avis du Rabbi Sion. Si quelqu'un veut prendre beaucoup dans un champ qui est désapproprié, il pourra le faire. Pardon? Ouais, ouais. Pour quelques mois, il n'y a pas de problème. On verra que d'après le Rabbi Sion, il y a un problème de biour. Le biour, comme on a dit, quand ça disparaît dans les champs, il faut que ça disparaisse chez toi aussi à la maison. Le Rabbi Sion, on est obligé de faire comme le Rambam qui dit se débarrasser complètement. Donc, ta confiture à la poubelle. Donc on ne va pas prendre des containers, ça ne sert à rien, parce que dans quelques mois, dès que les fruits disparaissent des arbres, dans les champs, déjà il faut que ça disparaisse aussi de ta maison. Et ceux comme le Chazon Ish qui disent que non, on peut faire un biour en hefker, c'est-à-dire au lieu de vraiment se débarrasser de tous les fruits, on peut s'en débarrasser en faisant un hefker, en mettant à l'extérieur, et quelqu'un peut venir, et après je peux les reprendre moi aussi. Alors lui, Chazon Ish, il dit que les autres peuvent prendre dans le champ désapproprié que la quantité d'une semaine. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas de risque de grands containers qui disparaissent comme ça du champ. On passe au deuxième interdit de Horata Hefsed. Hefsed, qu'on n'a pas le droit de gâter les fruits. Ça veut dire, on n'a pas le droit de faire une utilisation qui n'est pas normale. C'est quoi normal? Par exemple, on n'a pas le droit de cuire une chose qui se mange crue ou de manger crue une chose qui se mange cuite. Une patate crue, on n'a pas le droit de manger en chevite. Un concombre cuit, on n'a pas le droit ni de manger ni de cuire. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire du jus avec des fruits qu'on n'a pas l'habitude de faire du jus avec. Alors, avec quoi on a l'habitude de faire du jus? Marsloket. Chazon Ish dit, enfin, certains, tout le monde est d'accord, jus de banane, jus de, je sais pas moi, de carotte, on peut encore en parler, d'accord? Jus de banane, jus de concombre, personne ne fait. Si tu fais un jus de concombre, c'est interdit, c'est certain. Jus d'orange. Jus de pamplemousse. Marsloket. Alors Ben Sion dit interdit. Ce qui est permis, c'est que le jus de vigne, c'est-à-dire le vin, et le jus d'olive, c'est-à-dire l'huile d'olive. L'huile et le vin. Tout le reste, ce n'est pas la façon normale de faire. En tout cas, au niveau de Chazal, un jus, c'est ça un jus. C'est du vin ou de l'huile. Jus d'orange, c'est un truc qui est moderne, c'est interdit. Le Chazon Ish et d'autres disent non, c'est permis. Tout ce qui est les jus qu'on a l'habitude de faire, jus d'orange, jus de pamplemousse, ça sera permis. Cela est valable pour les fruits, cela est valable aussi pour le goût du fruit. Si quelqu'un maintenant, il a fait une daf, et a mis dedans maintenant, je sais pas moi, des dates de Shemitah, c'est bon. Et quelqu'un, je sais pas moi, il a mis encore des prunes dans la daf, c'est bon. Maintenant, le goût des dates et des prunes, il est sorti dans la viande, il est sorti imbibé dans le riz, dans le blé. Est-ce que je dois maintenant de gâcher le blé et gâcher le riz ou la viande? Non. Vu qu'ils sont imbibés du goût maintenant d'une chose qui était sainte de Shvi'it, de 7e année, ils reçoivent le même din, la même règle. Et je n'ai pas le droit maintenant, par exemple, de jeter, comme je n'ai pas le droit de jeter, on va voir, des fruits de Shvi'it, je n'ai pas le droit de jeter maintenant des restes de viande de daf qui sont imbibés du goût de Shvi'it. On aura le droit de faire chaque utilisation qu'on a le droit d'habitude. Par exemple, j'ai des restes maintenant dans mon assiette de fruits de Shvi'it. Est-ce que je vais maintenant de bien nettoyer, prendre tout ça et mettre dans un sachet, conserver en sainteté? Non. Des restes normaux, une assiette sale, je peux la laver normalement, ça part dans le lavabo, part dans les égouts, terminé. Mais quand il y a beaucoup de restes, alors là il y a un problème. Ou par exemple, des pelures. Attention, la sainteté ne concerne pas que les aliments humains, aussi les aliments animaux. Par exemple, il y a des pelures de certains aliments qui sont mangés par les animaux et ils sont encore sains. Qu'est-ce qu'on fait de ces pelures-là? Interdiction de les jeter. Elles sont saintes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un parshmita, s'il s'appelle. On doit les laisser à la maison quelque part. Et on attend qu'ils pourrissent. Quand ils sont pourris, qu'aucun animal normal pourra manger de ces pelures-là, de ces restes, que ce soit les pelures ou les restes des fruits, alors on peut les jeter. Auparavant, on doit les garder. Qu'est-ce qu'on fait? En cas où on n'a vraiment pas le choix, on a déjà mis un peu ici, si ça pue, ici ça pue partout, on va, ça c'est putréfaction des restes de fruits qui sont en train de pourrir. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des parshmita, il y a des abnebras qui font cela, ils font des une sorte de poubelle, c'est pas une poubelle, c'est un endroit où on met toutes les pelures comme ça. Mais lorsque les pelures ont commencé à pourrir, je n'ai pas le droit de prendre une pelure qui n'est pas encore pourrie et la mettre. Ça, c'est gâché. Parce que lorsque tu mets une pelure qui est en bon état, en contact avec une pelure qui est en train de pourrir, elle pourrit encore plus vite. Donc, tu as gâché maintenant des choses saintes, c'est interdit. Donc, il faudrait pour chaque jour, pour chaque jour, que tu aies un autre passe. Très dur. Alors, vraiment, si on peut pas, alors il est permis de prendre des pelures, mettre dans un sac en nylon comme ça. Le mieux, c'est de prendre même deux sacs, bien, et les mettre à la poubelle. Ok, ce sera permis. Faire attention que le camion poubelle ne fasse pas des stretch, d'accord, de, quand ils prennent, les sacs, ils vont éclater avec tous les morceaux de pelures à moitié pourris qui sont encore saintes en partie. C'est un problème aussi. Donc, faire en sorte que la sainteté des fruits soit conservée. On ne pourra pas donner, tout ce que je vous dis maintenant, on verra tout dans le détail, hein, je vous fais en gros comme ça que vous n'avez plus une idée comment ça se passe. On n'a pas le droit de donner des fruits qui sont pour la consommation humaine à des animaux et vice versa. D'accord? Il y a des fruits qui sont faits pour les animaux, ils sont pour les animaux, pour les êtres humains, ils sont pour les êtres humains, on ne peut pas intervertir. On pourra donner un morceau de pain, par exemple, de Shemitah, ou une pomme, un bébé, mais que la moitié passe dans sa gorge, l'autre moitié va être par terre, un peu partout dans ses habits, d'accord? C'est permis, parce que c'est la façon normale de manger. On ne pourra pas écraser des fruits, à part les fruits qu'on a l'habitude d'écraser. Par exemple, un concombre écrasé, ça c'est pas, on n'a pas le droit. Une banane écrasée, on peut le faire. Un avocat écrasé, on peut le faire aussi, parce qu'on a l'habitude de faire des choses pareilles. On ne pourra pas donner des fruits de Shemitah à un non-juif, parce que c'est pas la consommation, enfin une consommation qui soit juive. Si jamais on invite un non-juif chez soi à la maison, vu qu'on a le droit de cuisiner pour les gens de sa maison, et que lui maintenant, présentement, il est invité chez toi, tu peux. Tu ne peux pas aller maintenant donner dans la rue, comme ça, à un employé ou au bureau, des fruits de Shemitah. Ça, c'était pour interdit le fait de pas gâcher les fruits. Troisième, srora. Srora, c'est-à-dire le business. On n'a pas le droit de faire du business avec les fruits de Shemitah. Mais on a le droit de faire si c'est une petite quantité. Combien? Toujours la même quantité, comme j'ai dit, ou trois repas, ou pour quelques jours. Ça, on a le droit d'acheter ces fruits-là. Mais il faudra faire cela différemment. D'abord, on ne pourra pas mesurer. On ne peut pas mesurer au poids ou au nombre les fruits. Parce qu'on ne peut pas faire de business, et ça s'appelle une façon de faire du business. Donc on voit ça en façon omed. Omed, c'est-à-dire de façon en estimation. D'accord? Tu prends par exemple un carton de bananes, un carton de prunes, d'accord? Tu peux comme ça. De même, on ne pourra pas acheter à l'endroit où on achète habituellement. Pas au marché des fruits, pas à l'épicerie. Il faut dans la rue comme ça, ou dans une entrée d'un bâtiment, on vend là-bas. Parce qu'on ne veut pas faire une vente qui soit dans la vente normale. On fait un business, mais en petit, différemment, complètement. L'argent qui est produit de la vente de ces fruits-là devient sain. J'ai vendu maintenant un paquet, je ne dis pas un kilo parce qu'on n'a pas de poids. J'ai vendu maintenant un paquet de pommes pour 60 shekels. L'acheteur, moi je suis le vendeur, l'acheteur me donne 60 shekels, ces 60 shekels, qu'ils soient en pièces ou en billets, deviennent sains. Ça veut dire quoi sain? Un billet est sain, il n'est pas sain un billet. Mais quand je vais acheter la nourriture avec ce billet-là, la nourriture, le billet devient profane. C'est-à-dire que j'ai acheté un poisson, je vais poissonner avec ce billet de 60 shekels. Le poissonnier reçoit le billet, ce billet devient profane, il fait ce qu'il veut avec. Mais les poissons que j'ai achetés deviennent sains, comme les pommes. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de le jeter, je n'ai pas le droit de le manger cru, je n'ai pas le droit de manger un peu de poisson à mon chien, interdit. Maintenant, moi, je ne vais pas manger du... C'est le poisson, je fais du troc. J'ai pris le poisson et je l'ai troqué contre un beefsteak. Le poisson devient profane, le beefsteak devient saint. Le beefsteak, j'achète des noisettes. Le beefsteak devient profane, les noisettes deviennent saintes, etc. Les 60 shekels vont aller comme ça, et ils restent saints. Et chaque fois, le dernier fruit que j'ai acheté avec le produit de la vente des premiers fruits, ils sont saints. Les derniers et les premiers. Les premiers, les pommes qui ont poussé sur l'arbre de l'année de Shemitah, ils restent saints toujours. On peut les vendre 40 000 fois, ils restent saints. Donc les premiers et les derniers restent saints. Le reste, tous les étapes intermédiaires sont profanes. Il y a deux problèmes. Premier problème, c'est que vu que l'argent du produit de la vente des fruits, il est saint, je n'ai pas le droit d'acheter des fruits chez un vendeur que je suspecte de ne pas respecter les lois de Shemitah. Parce que lui, il aura son argent. Avec son argent, qu'est-ce qu'il va acheter? Il va aller s'acheter maintenant son repas de midi et il va donner une partie à son chien. Or, son repas de midi maintenant, qui a été acheté avec le produit de l'argent de la vente de Shemitah, il a acheté un falafel, d'accord? Ce falafel maintenant, il est saint. Sa falafel de 8e année, de 6e année, pas de 7e année. Sa falafel qui a été fait à Jéricho, d'accord? Il a été à Jéricho chez les Arabes, il a acheté un falafel, d'accord? Un bon falafel. Ce falafel maintenant, il est saint, parce qu'il a été acheté avec de l'argent du produit de la vente de fruits de Shemitah. Vu que moi, je suspecte cette personne-là de ne pas respecter la loi de Shemitah, je n'ai pas le droit d'acheter chez lui des fruits de Shemitah. Premier problème. Deuxième problème, il est religieux, il pratique la Torah comme il faut, tout comme il faut. Il y a un problème avec la monnaie qui me rend. Je vais acheter un paquet de pommes pour 60 shekels. Je vais donner un billet de 100 shekels. Il me rend 40 shekels. C'est 40 shekels. Ils sont saints ou pas? Normalement, on dira non. Pourquoi? Parce que les pommes sont saintes. 60 shekels que je donne maintenant, 60... Dans les 100 shekels, 60 shekels deviennent saints. Les 40 qu'il m'a donné, c'est la monnaie, c'est pas saint. Il y avait 60 shekels de sainteté. Comment il y aura maintenant 100 shekels tout à coup de sainteté? C'est pas possible. Il y a un autre problème, c'est que quoi? C'est que les 40 shekels qu'il m'a donné, d'où ils proviennent? Vraisemblablement de la vente d'autres fruits de Shemitah. Donc ils sont saints, eux aussi. Non seulement s'il va acheter maintenant un falafel à Jéricho. Lui maintenant c'est un juif religieux, il ne va pas prendre ni falafel ni Jéricho. Il me rend maintenant mes 40 shekels. Mais vu que ces 40 shekels sont le produit d'une autre vente de fruits de Shemitah qui sont saints, ces 40 shekels sont saints aussi. Donc la monnaie que je reçois, elle aussi, elle est sainte. Seulement si la majorité des fruits de ce vendeur de fruits n'est pas de Shemitah, on peut considérer que cet argent-là provient de la moitié non sainte, profane. Mais si la majorité des fruits maintenant sont saints, on considère que la monnaie qui vient de la majorité, et elle est sainte. Col des Paris, je m'ouvre à Paris. Tout ce qui a été quitté, on dit que ça a quitté la majorité. La majorité maintenant des fruits de ce magasin sont saints, donc cet argent maintenant, il est saint aussi. Donc deux problèmes. On n'a pas le droit d'acheter des fruits chez quelqu'un qu'on suspecte de ne pas pratiquer les lois de Shemitah. Deuxièmement, il y a un problème parce que même quelqu'un qui pratique les lois de Shemitah, si la majorité des fruits de ce magasin sont des fruits saints de Shemitah, la monnaie que je reçois, elle est sainte aussi et je dois l'utiliser en sainteté. Ça veut dire quoi? Je veux dire, si j'ai chez moi de l'argent ou des produits qui sont venus après l'argent, avec l'argent j'ai acheté un poisson, avec ça j'ai acheté encore, une bière, etc. Si j'ai chez moi des produits ou de l'argent qui ont de la sainteté de Shvi'it, de 7e année, que toute cette sainteté passe dans l'aliment que je vais manger maintenant, ou le premier aliment que je vais manger ce matin, dans la valeur d'une pruta. Même si j'ai maintenant une valeur de 1 000 $ de sainteté de Shemitah chez moi à la maison, je peux la faire passer sur la valeur d'une pruta. Une pruta, c'est environ 7 agourotes aujourd'hui, 7-8 agourotes, c'est environ 1 centième d'euro. Je dis que toute la valeur de Shemitah que j'ai passe dans l'aliment que je mange maintenant, dans la valeur de une pruta, et cet aliment maintenant devient saint. Et je le mange en sainteté. Je fais attention de ne pas donner à mon chien, de ne pas le manger cuit, on doit le manger cru, etc. Toutes les choses qui concernent les lois de sainteté, les pas jeter la poubelle après, etc. Manger en sainteté. Et là, je règle le problème de l'argent. Tout cela est très fastidieux. On aura deux moyens d'aller plus ou moins manger normalement cette année des fruits. Il y a une grande marloquette qu'il faut connaître, qui date d'il y a 500 ans. Deux plus grands rabbins de la ville de Tzfat. C'était Maran Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et le Mabit, qui était le rav de la ville. Le Mabit, Rav Moshe Matrani, était le rav de la ville de Tzfat. Une question se pose à ces rabbins. Est-ce que les fruits de la terre d'Israël sont automatiquement saints parce qu'ils ont poussé sur la terre d'Israël, ou seulement s'ils appartiennent à un juif. Si la terre appartient à un juif, que se passe-t-il si maintenant on a une terre qui appartient à un goy, sur laquelle a poussé des fruits de la terre d'Israël? Rabbi Yosef Karo, il dit, ces fruits-là ne sont pas saints de sainteté de Shemitah. Ils sont profanes. Mabitne, non, ils sont saints, ils sont poussés de la terre d'Israël, ils sont saints. Grande machloket. Là, l'Alacha, c'est pas tranché jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, Rabbi Yosef Karo, il a fait un cherem, une excommunion à tout celui qui ne ferait pas comme il a fait lui, et tous les rabbins ont été d'accord avec lui. Maintenant, beaucoup de rabbins, après Rabbi Yosef Karo, ont dit, néanmoins, les arguments du Mabit s'entendent bien. Le Chazon Ish, à Bnei Brak, c'est lui qui a remis à la mode toute la Shemitah il y a bientôt un siècle, enfin, moins, 70 ans, il y a 80 ans, il dit, on ne possède que le Mabit. C'est-à-dire que tous les fruits de la terre d'Israël, que ça provienne de production des Arabes, des chrétiens, de qui que ce soit, elle est sainte. La coutume Minag Yerushalayim, la coutume d'Yerushalayim, pas des Sfaradim, tous le Badat, tout Yerushalayim depuis des temps ancestraux, c'est la coutume qui est en terre d'Israël et principalement en Jérusalem, et comme Rabbi Yosef Karo, que les fruits des Arabes ne sont pas saints. Nous, ici à Yerushalayim, on suit cet avis-là. Donc si on veut sortir de tous les problèmes, on prend une production arabe ou de l'étranger, française, espagnole, ce que tu veux. Là, tous les problèmes de Shemitah disparaissent de facto. Ceux qui, à Jérusalem, veulent faire comme le Chazon Ish. Ou dans la terre d'Israël, il y en a beaucoup qui font comme le Chazon Ish, il y en a d'autres qui font aussi comme les Sfaradim. En gros, nous, on peut suivre tout ce qu'on Rabbi Yosef Karo, et pas le problème. Ashkenazim. Alors, faut d'avoir, il y en a qui pourront prendre la coutume des Yerushalayim, s'ils sont Yerushalayim, d'autres qui préféreront prendre la coutume de Bnei Brak, du Chazon Ish. Les deux coutumes existent. Pour les Sfaradim et pour ceux qui habitent Jérusalem, il n'y a pas de problème à faire la coutume d'Rabbi Yosef Karo et considérer que toute la production, même en terre d'Israël, de producteurs, de propriétaires non juifs est permise. Alors, dans tous les magasins ici qui ont les bons Hercherim, ça provient des Goïm, il n'y a aucun problème.
Tous les magasins
qui ont des bons Hercherim, des bons tampons de cacheroute. Par contre, ceux qui vont comme le Mabit et le Chazon Ish, qui disent que la production d'un propriétaire non juif, elle est sainte aussi, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une combine qui s'appelle l'Otsar Bedin. Otsar Bedin, c'est une chose qui, le Rabbi Sion dit que pour une Sfaradim, c'est pas valable. Maïmonide n'a pas rappelé cela et c'est pas valable. Néanmoins, le Ramban Nachmanide l'a rappelé. Et donc, ceux qui font cela ont sur qui compter. Mais pour Sfaradim, mieux vaut éviter. Qu'est-ce que c'est? On a une Tosefta, c'est un texte qui a été écrit il y a 1500 ans, qui dit comment ça se passait. Que le Bedin, donc le tribunal rabbinique, mettait à la porte des villes des gardiens. Et quand quelqu'un amenait sa production de ses champs, on lui confisquait tout, sauf pour trois repas. Les trois repas que chacun a le droit d'avoir, on lui donnait à lui. On confisquait tout, on mettait ça dans des greniers. Tu avais des greniers de figues, des greniers d'olives, de dattes, etc. Venait le temps de faire l'huile d'olive, alors le Bédin payait des employés, et ils allaient, et ils pressaient les olives, faisaient de l'huile d'olive. Venait le temps des dattes, alors ils faisaient des gâteaux de dattes ensemble, comme ça ils mettaient ensemble, ou de figues, et distribuaient comme ça, tous les vendredis avant Shabbat, distribuaient comme ça dans la ville, gratuitement, pour tous les gens de la ville. De cela, dit le Ramban, on a appris deux choses. D'abord, que le Bédine peut aller maintenant, et même envoyer des employés dans les champs, pour faire la récolte. Moi, propriétaire, j'ai pas le droit, je dois me désapproprier. Mais je peux maintenant dire, ça ne m'appartient pas, et le Bédin peut venir dire, parce que le Bédin est quelque part envoyé du grand public. Le grand public vient par Bédin intermédiaire dans mon champ et peut faire la récolte dans mon champ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le Bédin, après, quand il va distribuer, il n'y a aucun problème de vente. C'est une distribution. Aujourd'hui, le Chazon Ish, en utilisant maintenant l'avis du Ramban, qui considère Tosefta comme la Halakha, a mis en place ce qu'il appelle le Otsar Bedin. Otsar Bedin, c'est donc les greniers du Bedin. C'est-à-dire que tous les propriétaires religieux, agricoles, vont se désapproprier de leur récolte, mais vont demander au Bedin, regardez, j'ai une récolte, dommage que personne ne vienne les prendre. Qui va aller maintenant prendre sa voiture pour aller prendre pour trois repas des figues dans le champ voisin? D'accord? Le bedin, venez dans mon champ, faites-vous la récolte. Le bedin va payer des employés. Quel meilleur employé pour aller travailler dans ce champ? Le propriétaire lui-même, il s'y connaît bien. Alors le bedin va payer le propriétaire. Tiens, tu deviens notre employé, tu vas maintenant, toi, faire la récolte. Il peut faire une grande récolte. On a vu que, d'après tous les avis, le propriétaire ne peut faire qu'une petite récolte. D'après d'autres avis, tout le monde ne peut faire qu'une petite récolte. Là, vu que c'est le bedin qui fait, qui envoie du public, alors on peut faire une grande récolte d'un coup. On fait une récolte normale. Mais aussi, d'après certains avis, qu'on devait récolter différemment. Là, on fait la récolte normale. Le bedin vient, manufacture tout ce qu'il faut, s'il faut faire de l'huile, s'il faut faire du vin, s'il faut faire mettre dans les paquets, et va distribuer cela au public. Comment il distribue? Il amène un camion, et il commence à distribuer une vente, avec de l'argent vraiment. Mais au lieu de faire payer la valeur des fruits, ce qui est interdit parce que les fruits sont sains, on ne peut pas les vendre, on va simplement faire payer aux gens le prix de revient de l'employé, de la manufacture, des moyens de transport, c'est le prix de revient. Maintenant, ça, c'est pas, il n'y a pas de schmitt, il n'y a pas de sainteté de schmitta là-dedans, c'est l'argent que j'ai payé à l'employé. Le fruit, il est sain. Si je l'achète, maintenant, l'argent devient sain aussi. Mais quand je n'achète pas le fruit, je le reçois gratuitement. C'est moi que je paye quand même l'employé qui l'a cueilli, le camionneur qui l'a amené, la boîte qu'il a, dans laquelle je l'ai mis, tout cela a une valeur. Donc je paye pour la boîte, pour le camion, pour l'essence, pour la transpiration du propriétaire, de l'employé. Tout cela, c'est permis, c'est pas Shemitah. Donc on pourra payer normalement. On appelle cela Otsar Bedi. Ok? Et c'est comme ça que fonctionne Bnei Brak, en gros, et ici aussi de temps en temps, vous avez des grands camions qui viennent, qui commencent à distribuer comme ça dans la rue, il faut payer, mais tu payes uniquement le prix de revient. Pour le vin, c'est très intéressant. Carmel qui vend des vins des fois à 30, 40, 50 shekels la bouteille, là il a vendu 12 shekels, 15 shekels, et tout le monde a commencé à prendre des caisses pour les 10 ans à venir, parce que c'est très bon marché, des caisses, et c'est Otsar Beit Din, ça va. Il faut faire attention, c'est du vin de Shemitah, pas commencer à... jouer une bataille de... Alors il y en a qui disent que pour le vin, on n'a pas le droit à l'Avdallah d'éteindre la bougie dans le vin. Alors Bessin dit que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il dit, toute utilisation normale, on peut. C'est normal de faire cela. D'autres qui interdisent. Alors justement, tu as posé la question des questions. Le biour, qu'est-ce que c'est? J'explique que le biour, il y avait deux avis. Il y en a qui disent que c'est se désapproprier, comme ça dit le Chazon Ish. Et la Rabbinite et le Rambam disent non, il faut vraiment aller et brûler, disparaître. Donc, même ceux qui vont aller acheter maintenant du Otsar Beit Din, par exemple, le vin. Le vin, on connaît la date où il faut faire le biour, c'est la veille de Pessah de la 8e année. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font cette veille de Pessah 8e année? Ils font comme le Chazon Ish, ils s'approprient, ils vont dans la rue, ils mettent leur caisse, ils attendent un petit moment après, ils ramènent chez eux à la maison. Pour nous, c'est interdit. Saradim, on doit prendre tout le vin, ou bien à la poubelle, tu le verses, même que c'est chouite et c'est sain, à la poubelle, c'est comme le Hametz, il faut le brûler. Ou bien, le mieux, pour pas justement bêtement, tu distribues ça aux gens. Tu peux garder pour 3 repas. 3 repas signifie 3 fois 86 millilitres, c'est la quantité de vin par repas. 3 fois 86, ça nous fait combien? Ça nous fait 240, environ 250, 258 millilitres. Un quart de litre de vin, tu peux garder. Ce qui fait pour trois verres, des 4 verres du soir de Pessah. Tu peux garder. Maintenant, tu peux garder pour toi et ta famille. Vous êtes bien à 80 dans la famille, tout le monde vient pour essayer d'acheter dans la maison, tu peux garder. Ça fait 30 bouteilles, d'accord? Si tu maintenant pour tout ton quartier, tout à l'échiva, je vais maintenant des vins pour l'échiva, je peux donner. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, garder personnellement pour moi, je suis obligé de me débarrasser de cela. On va finir avec une dernière chose qui est un peu compliquée, mais très importante. Ça, c'est en gros, hein. Après, on va faire des cours, plus chaque chose, plus des avis. Vous avez au moins une bonne idée, hein. Bonne idée comme ça générale des lois qui concernent la Shemitah. Tout cela concerne les fruits de la Shemitah. Maintenant, il faut que le fruit soit sain de sainteté de Shemitah. Quand est-ce qu'un fruit devient-il sain? Alors, ça dépend quelle sorte de fruit. En ce qui concerne l'interdit de sfirim, les légumes, les féculents et les céréales qui sont interdits à la banane, parce que de peur qu'on aille en cachette, planté, ça c'est dès le premier jour de la Shemitah, jusqu'à un jour de la Shemitah, c'est interdit. En passant le dernier jour de la Shemitah, c'est vrai que c'est interdit. Mais si maintenant j'ai une tomate, qui a poussé sa majorité en Shemitah l'année prochaine, en fin d'année prochaine, au mois d'août-septembre, d'accord, au mois de Elul, elle est bien grosse. Je dis, ah, elle est belle, je la garde pour Sukkot. Rosh Hashanah sort, bien Rosh Hashanah, on sort de l'année de Shemitah, on est en Shemitah en 8e année. Maintenant, je cueille cette tomate en 8e année. Normalement, il n'y a aucun problème. Mais un petit problème quand même, vu que sa majorité l'a poussée en 7e année, il faut attendre le temps qu'une tomate pareille ait le temps de pousser en année de 8e année. Et ça jusqu'à Hanouka. Dès Hanouka, après c'est fini. Dès Hanouka, même s'il n'y a pas le temps de pousser, on peut dire que c'est déjà passé et ça va. Le Issour Sfirin, il continue jusqu'à Hanouka, jusqu'au temps que ça prend de planter en 8e année et d'avoir ce fruit qui aura poussé. Ça, c'est pour le Sfirin. Maintenant, pour les fruits. Les sirines donc sont interdits à la consommation toute la 7e année. Maintenant, les fruits qu'on a le droit, oui, de manger. Alors, les fruits de l'arbre. Il y a deux sortes de fruits de l'arbre. Il y a olive, raisin, c'est une sorte, et toutes les autres sortes de fruits. Olive et raisin, on va aller d'après le tiers de la poussée. L'agrandissement de, comment on dit, de la pousse, du mûrissement du fruit. Si le tiers du mûrissement a eu lieu en 6e année, ce fruit n'est pas sain. Si le tiers du mûrissement a lieu en 7e année, ce fruit, il est sain. Pour les autres fruits, on ira d'après la chanata. La chanata, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui disent que c'est la même chose, c'est le tiers du mûrissement. Il y en a qui disent que c'est non, c'est quand la fleur tombe et le fruit commence à pousser. Si la Hanata a eu lieu en 6e année, les fruits, bien qu'ils vont être cueillis en plein 7e année, ils sont pas sains du tout, il n'y a aucun problème. Je peux aller en 7e année dans mon champ, couper avec un sécateur, tout normal, manger, donner à mon chien, il n'y a aucun problème. Parce que ce fruit-là, la Hanata, donc le tiers du mûrissement, ou bien la fleur qui est tombée et le fruit a commencé à pousser, a eu lieu en 6e année. Par exemple, c'est le cas pour maintenant tous les agrumes, les oranges, les citrons. Entre parenthèses, pour pas les gens qui se croient malins, mais ils sont même pas malins, les gens savent que c'est vrai que pour les lois de prélèvement, Maasrot ou Moteorla, on va d'après tout Bishvat, le 15 du mois de Shvat. Pour Shemitah, c'est différent. Shemitah, on va depuis le premier Tishrei, Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah de Kaftet Elul, la veille de Rosh Hashanah de l'année passée. Ok? Pour les céréales et les féculents, ça sera le tiers du mûrissement. Pour les légumes, ça sera le moment où on les cueille. Vous me direz, mais les céréales, les féculents et les légumes, ils sont interdits, c'est interdit de Sfirin. Alors qui parle maintenant de sainteté? C'est interdit. Sainteté, c'est-à-dire qu'on doit le manger en sainteté. On doit le manger sans le jeter, donner à son chien, jeter par la poubelle. Réponse. On a vu qu'il y avait une marloquette entre Beth Yosef et le Mabit. Si les fruits de la terre d'Israël, lorsque le propriétaire n'est pas juif, est-ce qu'ils sont saints, oui ou non? Le Beth Yosef, comme ça, non, dit Mina Yerushalayim, dit qu'ils ne sont pas saints. Mais pour le Chazon Ish et le Mabit, ils sont saints. Donc à Bnei Brak, par exemple, ils vont acheter des légumes, des Arabes, par exemple. Ces légumes sont saints, vu qu'ils ont poussé en terre d'Israël. Ils sont saints quand? Lorsqu'ils ont été cueillis en 7e année. On va d'après la cueillette. Idem pour céréales, idem pour féculents. Nous, on n'a aucun problème. Tous les légumes que nous pouvons manger sont uniquement production de l'étranger ou production israélienne de propriétaires arabes. Attention, si le propriétaire est juif et l'employé, celui qui travaille sur la terre, il est arabe, ça ne change rien du tout. On va pour le propriétaire. Donc, de même, il nous faut, pour nous, Mina Yerushalayim, si le propriétaire il est arabe, les légumes. Donc, tous nos légumes ici seront d'origine arabe ou étrangère. Et ne sont pas saints de sainteté. Pour manger un concombre, donnez-moi une moitié au chien. Il n'y a aucun problème. Par contre, ceux qui font comme le Mabit et comme le Chazon Ish et Bnei Brak, donc les légumes de production juive sont interdits, Sfirin, ils n'auront que les légumes des Arabes et eux considèrent qu'ils sont sains. Donc ils devront. Ah, est-ce qu'on peut acheter les fruits d'un Arabe sans le passer par le Tzar Beit Din? Bien sûr. Le Tzar Beit Din, c'est une compagnie pour le propriétaire. Le propriétaire maintenant qui doit laisser son champ se désapproprier, qui n'a pas le droit de vendre. Il ne peut que distribuer gratuitement. Il dit au Bedin, venez, soyez les envoyés du public. Ça va. Mais l'arabe, il fait ce qu'il veut. Il peut planter. Il peut il peut vendre et il n'y a aucun problème. Donc, il vendra, lui va vendre les fruits, l'acheteur juif qui va prendre le propriétaire du magasin, qui devra vendre maintenant les fruits des Arabes, il devra les vendre, lui, en sainteté. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un ktav shlichut. C'est quoi ktav shlichut? Pour aussi, c'est une sorte de million de farbedin. Comment ils font? On ne peut pas dire que le bedin vient dans le champ de l'arabe. Les ktav shlichut signifient on fait un écrit, un contrat d'envoi. On va dire, toi, tu es le propriétaire du magasin. J'écris maintenant un contrat comme quoi je te fais mon envoyé pour aller chez les producteurs arabes acheter des fruits. Donc toi maintenant, quand tu viens et tu me vends le fruit, tu ne fais pas une vente. Tu me fais payer tous tes frais.
Il peut pas
vendre de bénéfice. Pas de bénéfice. C'est un petit problème. Deuxième problème qu'il y a aussi, c'est que si lui maintenant, moi j'ai fait un ktav shlichut, j'ai fait envoyer, et moi on est 200 personnes comme ça, il y a encore 100 personnes qui sont des bons clients du magasin qui n'ont pas fait ça. Lui, il vend à beaucoup d'autres personnes. Donc, quand lui, maintenant, il va acheter chez les Arabes, alors il n'est pas seulement l'envoyé par moi. Il fait aussi maintenant un peu de business pour les autres juifs à qui il va vendre. Là, c'est un problème. Juste en parenthèse aussi, savoir avec ce que je viens de dire maintenant aussi, il n'y a pas d'interdiction de sfirin, de production des Arabes. Les Arabes ou les Goïms qui travaillent la terre en terre d'Israël, d'accord. Alors, il y a une discussion. Est-ce que les fruits sont sains ou pas? Dans tous les cas, il n'y a pas d'interdiction de sfirim. Sfirim, c'est quoi? C'était que les juifs allaient en cachette planter. Alors qu'il était interdit de planter pendant la septième année. Après, ça poussait tout seul. Alors on interdit tout ce qui pousse de la terre tout seul. Tout ce qui pousse en une année. Des légumes, féculents et céréales. Maintenant, ça ne concerne pas un arabe. Un arabe peut aller planter tant qu'il veut. Il n'est pas interdit à un arabe de travailler la terre. Donc il n'y a pas d'issue sfirim. Tous les légumes des arabes sont permis. Discussion, est-ce qu'ils seront sains ou pas sains? Minag Yerushalayim, ils seront pas sains. Minag Bnebrak, Chazonish, ils sont sains. On s'arrête pour le moment. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Que Dieu nous aide à bien faire, bien connaître ces lois dans Hachem.